Paula,
Vin et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditeurs et auditrices, lecteurs et lectrices. Aujourd'hui, nous avons avec nous, toujours bon pied, bon œil, Florent.
Oui, bonjour.
Et la très pétillante Sylvie. Et pourquoi pétillante? Parce qu'elle a une grande nouvelle à nous annoncer.
Bonjour, et oui, grande nouvelle aujourd'hui. Je dévoile déjà tout de suite la bonne nouvelle.
Et oui, c'est un grand jour pour l'association Cap Polar.
Tout à fait. Aujourd'hui, on va vous révéler donc les 5 titres qui sont en lice pour le prix Robin Cook 2025.
On fait un petit rappel sur ce qu'est le prix Robin Cook?
Oui, vite fait. Alors, c'est sa 4e année. Et c'est un prix qui permet de mettre en lumière des auteurs connus, moins connus. On est au sein de l'association plusieurs à avoir lu pendant l'année pas mal de titres. Et le but, il faut que l'auteur soit français, déjà, ou de langue française. Il faut que le roman soit paru en 2024 pour le prix 2025. Il faut choisir 5 titres qui seront tous différents, qui auront des attraits différents pour nos lecteurs et que chacun puisse s'y retrouver ou pas d'ailleurs être complètement perdu et absorbé par ces titres-là. Voilà, donc nous nous sommes réunis il y a peu de temps en bureau, en collégiale, et dans cette collégiale, nous avons fait émerger parmi nos lectures nos 5 titres préférés.
Sachant que les lecteurs pourront voter, mais... On révélera les noms des médiathèques et bibliothèques plus tard, peut-être, puisque, bon, on va les informer en même temps que nos auditeurs et auditrices. Et donc, il faut qu'effectivement, ils commandent des livres, etc., etc. Donc, on aura le temps de vous informer sur les noms des bibliothèques et médiathèques qui participeront et qui pourront vous mettre à disposition les romans choisis qui sont...
Alors, je vais commencer par le dernier roman d'Antonin Varenne, La piste du vieil homme, paru chez Gallimard. Alors là, on est à Madagascar. Alors, on va voyager un peu. Donc, c'est l'histoire de Simon, qui est un septuagénaire, qui vit depuis plus de 20 ans à Madagascar. Il a monté une petite affaire de tourisme avec un collègue. Voilà, ça vivote. Mais ça lui va bien. Et puis, une lettre de sa fille va lui apprendre que son fils est lui aussi à Madagascar, mais qu'il semble avoir disparu. En rupture depuis longtemps avec sa famille et ses enfants, Simon, il va entreprendre un road trip vraiment sur les pistes et les routes de la brousse malgache. Et là, de rencontres insolites, en aventure rocambolesque, on va partir avec lui et on navigue entre beauté des paysages sauvages, mais aussi la pauvreté, la corruption, le trafic et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, est-ce que Simon arrivera au bout de son périple? C'est un roman noir, c'est un roman touchant et terriblement humain.
Donc, Antonin Varenne, La piste du vieil homme, chez Gallimard.
Ensuite, on va changer de décor. On va partir avec Sébastien Vidal, qui nous emmène avec De neige et de sang aux éditions Le mot et le reste. Alors là, on est dans un endroit qui connaît Tordinona, un village isolé dans les Alpes, entre la frontière française et italienne. Alors là, on est dans un huis clos absolument terrible. Une violente tempête de neige arrive et elle va bloquer le pont qui relie le village à la vallée. Et là, vont se trouver pris au piège plusieurs personnages. Le premier, c'est un voyageur itinérant qui se trouve là par hasard. Deux gendarmes qui étaient en patrouille, les villageois, le garde champêtre, le maire et, évidemment, puisqu'on est dans un polar, un cadavre qui, hélas, s'avère être le corps de la fille du maire. Et alors là, à partir de là, s'abat sur cette petite communauté les éléments déchaînés de la météo, les secrets bien enfouis où règne l'omerta, et les règlements de compte peuvent alors commencer à pleuvoir. On est immédiatement happé par cette histoire et ce huis clos mené tambour battant comme un très très bon western à recommander.
Donc, de Sébastien Vidal, De neige et de sang, édition Le mot et le reste. Attention, on n'influence pas.
Du tout, du tout. Non, on a une sélection vraiment très éclectique, mais absolument géniale. Ensuite, on va partir, on change de décor, là on part avec Olivier Gallien et son roman Sève aux éditions Robert Laffont. Alors Olivier Gallien, il nous emmène en Corse. Et là, on va trouver Julia, une jeune éditrice parisienne qui revient en Corse sur ses terres familiales, retrouver son cousin Jean afin de comprendre une tragique histoire, le suicide de son frère. Et là, on n'est plus à la neige, mais on est sous le soleil du maquis corse, qui va se transformer rapidement en canicule, et les rudes relations de voisinage en jeu de massacre. Secrets de famille, héritage, vengeance, ne vous fiez pas au décor enchanteur du paysage. Ce livre est fait de bruit et de fureur.
Olivier Gallien, Sève, aux éditions Robert Laffont.
Et puis on retrouve Olivier Bordassar, qu'on avait reçu au Festival du Polar il y a quelques années, qui nous avait régalé de ses textes, qui est un fin écrivain voilà, avec beaucoup d'humour noir. Et effectivement, la disparition d'Hervé Snout aux éditions de Noël ne va pas déroger à la règle. Alors Hervé Snout, c'est un chef d'entreprise, un époux et un père de famille, mais voilà, il disparaît. Au début du roman, il disparaît. Les autorités sont claires, il n'y a pas grand-chose à faire, tout le monde a le droit de disparaître. Tout adulte a le droit de disparaître. Oui, mais voilà, Odile, sa femme, elle s'obstine. Elle est persuadée que cette disparition n'a rien de normal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle cache, Odile ? Son époux, est-ce qu'il était aussi gentil qu'il le paraît ? Et cette famille est complètement dysfonctionnelle. Est-ce qu'elle n'est pas non plus empêtrée dans cette histoire ? Autant de questions que l'auteur se régale d'éclairer petit à petit, en donnant la parole à tous les protagonistes de cette histoire, et il y en a. Alors là, lecteur, ayez le cœur bien accroché, car il s'en passe de terrible du côté de la bourgeoisie de province. C'est comme si Claude Chabrol rencontrait le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Un roman épatant, porté par une écriture maîtrisée de bout en bout.
Olivier Bordassar, La disparition d'Hervé Snout, aux éditions de Noël.
Voilà, et la petite dernière, il fallait une femme quand même dans cette sélection, donc c'est Pascal Chouffaut qui nous apporte La théorie des ondes, aux éditions Le Rouergue. Donc là, on va retrouver une ancienne flic qui s'appelle Catherine Gauthier et qui mène des enquêtes, qui s'est retirée de la police et qui mène des enquêtes pour un avocat, Maître Pierson. Alors, à l'occasion du carnaval de Chalon-sur-Saône, en 2013, une jeune fille est retrouvée morte. Et cela ravive les souvenirs d'assassinats de jeunes filles inexpliquées et restées impunies. Donc notre enquêtrice, elle va entreprendre de convaincre les familles de faire rouvrir les dossiers. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises, parce que cette enquête va mettre à jour des événements passés, douloureux, de fermeture d'usines en colonies d'enfants indigents où règne la maltraitance, la pugnacité des mères des victimes, sans oublier des erreurs judiciaires. Le tout sous fond de carnaval complètement endiablé, où le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. Un roman juste comme un battement d'ailes de papillon, La théorie des ondes se fait l'écho du passé qui provoque les drames d'aujourd'hui.
Donc Pascal Chouffaut, La théorie des ombres, aux éditions Le Rouergue. Sylvie, on a à peu près une idée, enfin un calendrier de la suite.
De la suite des événements. Alors là, on lance à partir d'aujourd'hui les inscriptions pour les bibliothèques et les médiathèques qui souhaitent participer au concours. Et on se donne comme rendez-vous, comme chaque année, on votera au mois de mai-juin, par là, hein, pas avant. Et on se donne des rendez-vous réguliers déjà sur les ondes pour parler des auteurs, comme l'année dernière, pour parler des livres, pour parler des sujets qui sont abordés. Et puis, après, on verra, on va peut-être proposer des activités et des actions auprès des bibliothèques ou des médiathèques à travers cette sélection.
Ben merci Sylvie.
Avec plaisir.
On a de bons moments de lecture qui nous
attendent. De très bons moments de lecture.
Des heures et des heures de lecture.
Je ne saurais que conseiller à nos auditeurs de franchir le pas et d'ouvrir ces livres. Chaque titre est un univers à lui tout seul.
On est encore loin de Noël, mais ça peut être des bonnes idées de cadeaux.
De très bonnes idées.
Absolument.
Florent.
Oui.
Donc on revient, alors c'est le deuxième épisode de Jazz et Polar au Viala du Tard. Après, je vous promets, on n'en parle plus. Jazz et Polar au Viala du Tard. Donc la fois précédente, Sylvie nous avait plongé dans le jazz, les relations entre le jazz et le polar. Et il y avait une deuxième table ronde qui concernait le polar et le rural, qui s'appelait Rural Noir. Donc le lien avec le rural et le polar.
Alors le rural et le polar dans le rural, c'est une question intéressante. Pour situer le sujet, on a souvent une image du polar urbain, alors que historiquement, en fait, on a écrit, enfin pas nous, mais les écrivains, les auteurs, se sont consacrés au polar dans le monde rural, aussi bien que dans les villes. Et ça, on peut le voir dans les romans de Raymond Chandler, comme dans ceux de Simenon. Voilà, donc on ne peut pas lier vraiment le polar à l'urbain, même si la tendance urbanistique du polar a été très forte. Et ça a un petit peu changé au début des années 2000 avec ce que les Américains ont appelé le nature writing, qui a déplacé donc les problèmes sociétaux dans la nature. Donc là, il y a eu un éditeur en France qui a beaucoup fait pour la promotion de ce type de littérature, c'est Gallmeister, qu'on retrouve maintenant absolument partout. Et en 2010, avec la théorisation dans le débat public de ce qu'on a appelé la France périphérique, les auteurs de polar se sont de nouveau intéressés à la ruralité. Si c'est des sujets qui vous intéressent vraiment, alors il y a un livre à lire qui s'appelle « Ceux qui restent », qui a été édité en 2019. C'est le livre d'un sociologue qui s'appelle Benoît Coquart. Et vous pouvez trouver ses interviews sur le web, édité à la découverte. Un bouquin vraiment intéressant qui a eu le prix des livres des députés en 2020, ce qui est un gage de qualité, n'est-ce pas ? Surtout en 2020, quoi. Alors, donc c'est intéressant parce que Benoît Coquart, en fait, parle un petit peu de la condition de ceux qui restent dans le milieu rural. Et puis, on s'aperçoit que finalement, la ruralité, c'est la marge. Et quand on comprend ça, on comprend que le polar ne peut que s'intéresser à la ruralité, puisque le polar s'écrit dans les marges de la littérature et sur les marges de la société. Voilà. Donc là-dessus, sur le polar spécifiquement rural, il y a une chercheuse qui s'appelle Natacha Levé, qui a édité un article qui s'appelle « Quand le noir se met au vert », qu'on trouve sur un portail de science qui s'appelle sciencehub.com. que je conseille à tout le monde d'aller voir, l'article et d'autres articles. Voilà, donc elle explique très bien comment les modalités, les enjeux, l'évolution de la ruralité a amené les écrivains de polar à s'y intéresser, à la fois du côté de ceux qui y restent, hein, c'est-à-dire les ruraux, et puis aussi évidemment les néo-ruraux, hein, dans certains romans policiers récents, c'est assez flagrant, par exemple Panique en Armorique, dont on avait parlé à l'émission précédente, puisque ce sont deux néo-rurales, dont une stripteaseuse quand même, qui débarque en Bretagne, voilà. Donc là, on est en plein dans la collision des classes, voilà. Et puis aujourd'hui, il faut savoir une chose très importante pour comprendre aussi le polar dans la ruralité, c'est qu'aujourd'hui, la ruralité, c'est 5% d'agriculteurs et des déclassés ou des néo-ruraux qui ont parfois une sorte de déclassement dans leur feeling puisqu'ils ont dû quitter la ville où ils n'avaient plus les moyens de vivre. Voilà, donc le polar et la ruralité, c'est un thème essentiel aujourd'hui dans le roman noir. Donc je vous invite tous à vous attacher à cette question qui nous concerne tous. À bon entendeur, salut.
Merci Florent, et je me retourne vers Sylvie qui va nous donner quelques conseils de lecture de romans qui se passent justement dans le rural.
Oui, alors on ne peut pas passer à côté de Pascal Dessin avec « Un homme doit mourir ». Colagniel, autre auteur français qui a écrit « Entre fauves », et puis aussi son autre roman « Seules les bêtes » que Dominique Moll a adapté au cinéma. Benoît Mainville, avec « Rural noir », là, le titre parle de lui-même. Franck Bouys, qu'aujourd'hui on connaît bien, mais ses deux premiers romans, « Grossir le ciel » et « Glaise », qui étaient vraiment implantés dans le rural. Yann Lespoux, avec ses nouvelles dans « Presqu'île », pareil, qui sont ancrées du côté du Bordelais, dans le rural. Et puis David Van, qui nous emmène sur des terres australes avec « Suquan Island ».
Et alors, moi, j'avais envie de parler de quelques séries en lien avec ce qui va se passer après. Alors évidemment, il y a « Fargo ». Alors, il y a le film des frères Coen et la série en 5 saisons qui en a été tirée, qui se passe dans la petite ville de Fargo, dans le Minnesota profond. Il y a Happy Valley aussi, c'est une agente de police qui se bat contre les méfaits de la coke dans le Yorkshire. Je rappelle qu'on a une ville jumelée qui est dans le Yorkshire, Yorkshire comme disaient les Anglais. Et côté français, moi, il y a deux séries qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps, c'était Polar Park. qui voit l'écrivain David Rousseau, joué par Jean-Paul Rouve, revenir sur ses terres natales à Moutes, dans le Jura, ville la plus froide de France. Et dernièrement, sur France TV, moi j'ai eu le plaisir à regarder l'éclipse qui se déroule sur l'Aubrac et qui fait du trou de Bozoul une véritable star. Alors pourquoi parler des séries? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle rubrique. Rien à vendre. Donc cette rubrique, l'idée c'est de... N'importe qui, en fait, peut venir, auditeur, auditrice, lecteur, lectrice. La preuve, oui, Flo a fait, puisque moi, je suis là.
Je suis le premier n'importe qui.
Et non, c'est venir parler d'un coup de foudre, alors finalement, en rapport avec le polar, parler d'un film, parler d'un roman. Et aujourd'hui, on va parler d'une série.
Rien à vendre, donc j'ai rien à vendre et je vais vous parler d'une série qui date maintenant mais qui est donc gratuite sur l'ensemble des plateformes de streaming et il s'agit de Johnny Staccato. Est-ce que vous connaissez Johnny Staccato? 1959-1960.
Non, on n'était pas né.
Exactement, tu n'étais pas né.
Moi non plus.
Non plus. D'accord,
mais je vais vous en parler. Plus,
non, moi j'étais pas né, mais pas loin de naître. Donc 1959, première et unique saison, puisqu'à l'époque on faisait pas 30 saisons pour une bonne série. 27 épisodes de 25 minutes. Je voulais juste vous parler de cette série, parce que Johnny Staccato c'est d'abord un acteur et une musique ou de la musique jazz. L'acteur c'est John Cassavetes. Le réalisateur ensuite de Gloria, une femme sous influence, avec sa femme extraordinaire Gina Rowlands. Et c'est son premier rôle en fait. Donc il est jeune et c'est un super acteur. Le pitch est simple, c'est un pianiste de jazz qui finalement il galère tellement dans son bar tout pourri qu'il sent bien le malt et la cigarette. Donc il est sans le sou et il décide de rendre sa carte du syndicat des musiciens en échange d'une licence de détective, et le voilà lancé donc pendant 27 épisodes et pendant 25 minutes sur les pistes et les enquêtes les plus invraisemblables. Voilà, pour donner une petite idée des titres des épisodes, il y avait le deuxième épisode, c'est Meurtre en Do majeur. Ensuite, il y a eu Un jeune homme en colère, Une ville bien tranquille, Ne tirez pas sur le pianiste, pas mal de clins d'œil donc au cinéma de l'époque. Et en ce qui concerne la musique, ce qu'on entend en fond musical en ce moment, c'est Conte Condoli et son frère Pete Superman Condoli. Donc deux musiciens de jazz réputés qui ont joué avec les plus grands. Et à l'époque, chez les jazzman qui voulaient éviter de galérer dans des tournées interminables, souvent ils ne pouvaient pas profiter de tous les atouts de la ville puisqu'ils étaient noirs, il s'installait plutôt à Hollywood et il travaillait avec les plus grands studios. Les frères Condoli ont travaillé avec Mancini sur La Panthère Rose, etc. Donc ce sont des gens extrêmement doués et qui ont fait quelques albums que je vous conseille. Et si vous voulez en entendre plus et vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir Johnny Staccato.
Donc on est resté dans le jazz et le polar.
Exactement.
Merci Florent pour cette découverte. Moi j'avais jamais entendu parler de Johnny Staccato. Et on retrouve l'inspecteur Dérive qui passe qui aujourd'hui sur le grill. Nous allons bientôt le savoir.
L'interrogatoire de l'inspecteur Dérive.
À ta place, moi je prierais pour que ça finisse vite.
Il est 14h08, l'interrogatoire commence, l'inspecteur Dérive pose des questions, Laurence Bieberfeld y répond. Nom, prénom.
Bieberfeld, Laurence.
Profession.
Écrivaine.
Votre domicile.
Oh là, j'habite à Campestre-et-Luc.
Vous êtes venue en voisine, vous habitez au sud du Larzac. Vous êtes venue rechercher quoi sur le cause de Campestre? Refuge, clandestinité?
Alors la clandestinité, ça faisait déjà un moment, refuge, oui, en fait, je me suis retrouvée à chercher surtout à un moment un appartement, ou enfin un logement, que j'ai trouvé sur le Causse de Campestre, qui au début m'a beaucoup déroutée parce que j'aime beaucoup les forêts et les cours d'eau, donc c'est pas vraiment le Causse en fait. Et puis bon, après, un printemps est arrivé après l'hiver et là j'ai compris pourquoi j'étais là en fait.
J'ai une pièce à conviction, Péter les boulons, un roman que vous avez commis. Dédicace, de temps en temps, c'est vrai qu'il est bon, de temps en temps, de péter les boulons. Oh yeah, quel bonheur. On appellerait ça une apologie du terrorisme aujourd'hui, non? Ou au moins une incitation à désinguer le système?
Oui, oui, par le biais d'ailleurs de petits boulons du système, qui sont des êtres vivants, des êtres humains même, on peut le dire. Oui, oui, effectivement, j'assume totalement. Le titre originel de cette parution, c'était « No future, kill them all ». Donc, c'était plus explicite à ce moment-là. Et puis là, il s'agit de péter les petits boulons de l'état social, enfin de ce qui s'appelle l'état social. Et qui est à peu près le contraire de la sociale, en fait. Voilà, c'était mon point de vue.
Donc, quand je vous ai qualifié à plusieurs reprises de punk du roman noir, ça vous fait réagir. Enfin, je vois qu'effectivement, péter les boulons, on est un petit peu... Alors, je dis ça parce qu'on a le même âge, donc on a été élevés à base de Clash, de Ramones, oui, voilà. Et que... La couverture de Péter les boulons fait penser au Nevermind the Bollocks des Sex Pistols.
Ouais. Oui, oui, effectivement. Enfin, ceci dit, c'est... Bon, je ne dirais pas que c'est mon seul roman punk. C'est une farce, en fait. J'en ai écrit une autre qui s'appelait Écoute les cloches, qui portait sur une insurrection de clodos qui faisait des vagues, qui faisait tâche, qui finissait par agréger des sans-papiers, des putains, des cartes électrons, des gens très pauvres, des chômeurs, etc. Et ça finissait par faire une insurrection un petit peu plus considérable. Donc voilà, j'étais sur cette veine-là.
Les injustices de la société vous révoltent. Travail clandestin dans La vieille chapeau, féminisme dans La femme du soldat inconnu, violence faite aux femmes dans Malencontre. Claude Mesplèd, qui est à la fois éditeur et critique, dit de vous « L'originalité de Laurence Bieberfield consiste à raconter des histoires qu'on n'a jamais lues nulle part. »
Oui, c'était effectivement... Il m'avait fait un petit article dans son dictionnaire des littératures policières. Il s'était lancé dans un boulot absolument colossal, mais Mesplèd, il faisait ça. Hein, il faisait vraiment des espèces d'anthologies de son genre de prédilection. Oui, je suis vraiment sur ce versant du noir, qui est vraiment du noir social, c'est-à-dire qui vraiment va s'attaquer à tout ce qui fonctionne mal, aux criminalités qui ne sont pas poursuivies, ni même considérées comme des criminalités. C'est vraiment quelque chose, c'est ce dont j'ai envie de parler, en fait, effectivement. Et j'y reste de façon à peu près continue, en fait.
Et vous avez également participé à l'ouvrage collectif Stop, coordonné par un ami de Polar Veil Company, qui est Olivier Bordassard. Donc l'avenir de la planète et le mur vers lequel on se dirige vous préoccupe également, alors?
Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être préoccupé par ça. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est effrayant. Effectivement, c'est un mur. Et j'ai trouvé l'initiative d'Olivier assez hallucinante, en fait, sur le coup. Je dis, mais pourquoi pas? Mais c'était une excellente idée, en fait. On a tous fait des choses très, très variées, très différentes et tout. Mais bien sûr, oui, bien sûr, c'est que ça pose le problème, en tout cas, du productivisme, du capitalisme. Pourquoi on en est à bouffer la planète, à la détruire, à l'anéantir? Tous les humains ne font pas ça, toutes les sociétés ne font pas ça. C'est un certain type de société, un certain type d'hyperconsommation et de dédain absolu de tous les autres vivants, en fait, qui pousse à cette destruction. C'est pas universel, en fait. Donc, il faut s'attaquer politiquement aussi au problème, quoi.
Pour en revenir au polar et surtout roman noir, en fait, hein, c'est plus ça qui vous identifie. Pour vous faire découvrir, quel conseil de lecture parmi vos romans vous indiqueriez à nos auditeurs et auditrices?
Ah ben, commencez par les courts, comme ça, si... comme ça, si ça vous plaît pas, et ben... Alors, les séries noires ne sont plus en circulation, mais sinon, elles étaient de plus en plus courtes, en fait. Sinon, là, sur les bouquins d'Inuit, je conseillerais... le court-circuit, là, qui est un petit bouquin sur une ZAD, Le Faction, qui est un livre pour gosses, c'est Malencontre. Le court-circuit, c'est Il nous poussait des dents de loup. qui traite d'ailleurs déjà de thèses écologiques, etc., écologistes, parce que c'est effectivement la destruction des milieux qui est posée là. Mais lisez, si les petits vous plaisent, attaquez les plus gros. Attaquer les plus gros, ouais. Alors du coup, là, péter les boulons, je vais en sortir un, là, normalement, en août, qui s'appellera « Grains d'hiver », et où toutes ces problématiques seront de nouveau abordées, y compris celles du dérèglement climatique, du changement climatique.
Donc, et à part cette sortie, une autre actualité littéraire vous concernant ?
Non, là, si, oui, je vais publier, là, en mai, dans la maisonnette d'édition de Ours, les éditions Ours, de Yves Coscas, une petite parution qui s'appellera Blaireau, cochon et chien. Et ça traite de cuisine, en fait, entre autres. Mais bon, et c'est criminel un peu quand même aussi, parce que sinon, c'est pas drôle.
Ouais. Bah, merci, Laurence. Pour ce temps partagé, et puis bon vent.
Eh bien, merci, et que les vents nous entraînent, nous accompagnent, nous poussent. Voilà.
Go real crazy, other jazzy. Make everything go real crazy, other jazzy.
C'était Jumping with Symphony Seed, revisité par l'équipe de Dominique Delahaye. Dominique Delahaye, rappelez-vous, c'est lui qui a écrit ce livre avec ses fameuses nouvelles sur l'hommage à Lester Young, voilà, Prez. Donc il était accompagné ici de Vartan Faux au piano, de Colin Petit au sax baryton, de Louise Ragon au chant et Michel Abdelkader à la contrebasse.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Bonjour Eric Supply. Alors aujourd'hui, on va parler, j'ai envie de dire, plus d'une aventure humaine, hein, en rapport avec le vin bien sûr, et une histoire d'amitié. Donc vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Ouais, mais moi, je m'appelle Eric Supply, je viens d'avoir 60 ans et je suis œnologue de formation. Et voilà, j'ai eu 10 ans d'expérience en Bourgogne, 20 ans dans le Languedoc. Et voilà, j'ai monté mon petit domaine petit à petit tout en travaillant en ayant deux casquettes, quoi, maître de chai dans un domaine viticole dans l'Hérault. Et en même temps, j'avais mes vignes que je cultivais après ma journée de travail. Et voilà, et le week-end, quoi.
D'accord. Et là, on va parler du Viala du Tarn, puisqu'il y a quelques jours, a été organisé par notre association, le festival, enfin, en partenariat avec des associations locales aussi du Viala du Tarn, le festival Jazz et Polar. Et vous avez aussi une relation très puissante, hein, avec le Viala du Tarn, hein, quelque chose de très émouvant aussi.
Oui, oui.
Vous pouvez nous raconter cette histoire ?
C'est des vignes qui appartenaient à un monsieur qui venait m'aider tous les week-ends pour les vendanges. Et donc, du coup, quand ils ont su dans la situation que j'étais professionnelle, ils m'ont proposé de reprendre les vignes, quoi. Et moi, vis-à-vis des relations que j'avais avec ce monsieur, ben, j'ai dit OK, quoi, et j'y suis allé, quoi. Voilà.
Ouais, donc ce monsieur, c'est Michel, on ne dira pas le nom, hein, par respect pour la famille. Et donc, c'était un passionné de vignes, hein, passionné aussi du village du Viala. Et il avait replanté une vigne. Donc, avec quel cépage ?
Mais il a replanté de la Syrah. Il y a un petit peu de Merlot et un soupçon de Cabernet, quoi.
Et donc, une petite production, hein, vous m'aviez parlé de 2500 bouteilles à peu
oui,
près.
Oui, ça fait entre 2000 et 2500 bouteilles, oui. Oui, oui, oui.
Et qui s'appelle ?
Ça s'appelle les Terrasses d'Albertine.
Et qui était Albertine ?
Albertine, c'était sa maman.
D'accord. Avec deux... Ouais, parce que moi, quand j'ai entendu parler de ce vin, il y en avait déjà plus. Puisqu'il y en a eu un petit peu en vente, je crois, au Héron d'Eraspe cet été, au restaurant.
Oui.
Mais il n'y en avait plus, alors comment on fait ? Si on veut le goûter.
Mais disons que si vous voulez, on a fait deux cuvées. Donc les premiers Terrasses d'Albertine a été épuisé rapidement. C'était un vin léger qui n'avait pas vu d'élevage en fût. Et après, on a fait un deuxième lot qui était vendangé 15 jours plus tard et avec de l'élevage en fût. Et ça, c'est les Terrasses d'Albertine, cuvée la Nauque. Et ça, on commence à peine à le vendre, quoi. Et donc nous, on est référencés donc à Rodez, chez Monsieur Falguière, quoi. Qui nous revendent ce vin-là. Et après, voilà, quoi. Et après, si jamais il y en a qui veulent descendre à Montpellier le 30 novembre, il y a une journée spéciale vin de l'Aveyron chez un caviste, là. Et voilà, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais...
Ah oui, bon, oui, bien sûr, oui.
Donc, chez Péché Divin, à Jacou. Et donc, il organise une journée spéciale vin de l'Aveyron, quoi. Et donc, et ce jour-là, il y aura plusieurs vignerons, notamment, même il y a Olivier Julien qui va représenter ses vins. Bon, il y aura moi, et puis voilà, quoi. On va essayer de faire un truc sympa, quoi. Parce que je pense qu'il y a un beau potentiel là-haut, quoi. Avec le réchauffement climatique, il y a un beau truc à jouer, quoi.
Bah, c'était effectivement autour de Sérôme de Tarn, du Viala du Tarn, il y avait, on voit les terrasses, c'était beaucoup de vignes qui étaient plantées.
Ah ouais, puis des murs en pierre sèche bien faits et tout, et des masses qui sont superbes, quoi. Donc non, il y a une belle histoire vitivinicole, hein, sur le Viala, quoi.
Ouais, et aussi, comme je le disais en introduction, une histoire d'amitié, puisque autour de vous et autour de Michel aussi, il y a tout un groupe, hein, qui s'est créé.
Ah ouais. Tout le monde participe, ouais.
Ouais. Donc, ils vendagent avec vous. Enfin, voilà, quoi. C'est évidemment l'occasion de repas. Et voilà.
Il y a un repas qui est organisé. On casse la croûte ensemble. Non, c'est superbe. Hein, bien fait, quoi. Hein, quoi. C'est agréable, quoi. Il y a une bonne ambiance, quoi. Voilà, quoi.
OK.
Tout le monde est fier de participer au vin du Viala, quoi.
Ouais. Alors, les terrasses albertines, vous pouvez rappeler le nom du deuxième, de celui qui est vieilli en fût?
C'est la Nauk, la cuvée la Nauk.
Ouais. D'accord, ouais. Ouais. Comme le mas de la Nauk qui était le...
Voilà, mais c'est le nom du lieu-dit, hein, la Nauk. Hein,
ah, ok, d'accord.
C'est le terroir qui s'appelle comme ça, quoi.
Ok,
voilà.
Ok. Mais vous voyez, même si je suis du Viala, j'en apprends encore. Écoutez, ouais, merci Eric.
Ouais.
Et ben on a envie qu'effectivement d'autres vignes se plantent autour du Viala du Tarn. Ben peut-être vous en serez le tuteur sans jeu de mots. Hein.
Ouais, ouais.
En tout cas, l'accompagnateur de peut-être ce projet de développement, pourquoi pas.
En tout cas, je pense qu'il y a un beau, avec le réchauffement climatique, il y a un beau potentiel. Quoi.
D'accord. Voilà. Ok. Merci Eric et ouais. Au revoir. Et puis à ouais. Longue vie au vin du Viala du Tarn.
Bon, mais merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, l'émission se termine. Alors, quelques petits rappels. Donc, si vous avez aimé la rubrique « Rien à vendre » et que vous souhaitez participer, venir parler d'un de vos coups de cœur pour un film, une série, un roman ou autre chose, évidemment, en rapport avec le polar ou le vin. Donc, vous pouvez soit téléphoner à Radio Larzac au 05 65 58 73 39, 05 65 58 73 39, ou envoyer un mail à capsudaveyron12 en un seul mot, @orange.fr, capsudaveyron12@orange.fr. Je rappelle, la semaine dernière, nous avions une auditrice bretonne qui a voulu nous faire profiter d'un de ses coups de cœur, le roman « Panique en Armorique » de Dominique Sylvain. Donc, il en reste encore un à Radio Larzac, donc vous pouvez venir le chercher pendant les heures d'ouverture de Radio Larzac au 8 rue de la Capelle. C'était Polar Vin et Compagnie, une émission sur le polar,
le vin,
en bonne compagnie. Merci Florent.
Merci à toi William.
Sylvie a dû partir, en tout cas elle nous a dit plein de belles choses aujourd'hui. Donc rediffusion de cette émission mardi prochain à 16h et on se retrouve vendredi à midi dans 15 jours, sinon... Vous pouvez nous écouter en podcast sur radiolarzac.org.